Warning.
Attention, dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus.
When you played Cowboys and Indians as a kid, you'd point your fingers and go bang bang, and the other kid would lie down and pretend dead. Well, Westworld is the same thing, only it's for real.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 secondes.
Nous sommes le 27 avril 2016, bienvenue au 42e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction, lors duquel nous repassons à travers des films et séries que nous avons aimés ou pas. Je suis Nicolas Petzilas et avec moi Marie-Louise Gariepi.
Salut.
Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com avec un S et sur iTunes bien sûr. Et si vous avez envie de réagir à une discussion, commenter, nous faire des suggestions, tout ça... Eh bien, vous pouvez aussi nous contacter par courriel à 24quarks, toujours avec un S, @gmail.com. Aujourd'hui, on s'attaque à un film culte des années 70, Westworld, de Michael... Alors, Michael Crichton ou Crichton, je ne sais pas.
Crichton.
J'ai pas fait une recherche pour savoir comment on prononce ce nom.
Michael Crichton.
En tout cas, Michael Crichton. Ou Michael Crichton ou Michael Crichton. Il y a une de
Crichton.
Ces trois.
T'as dit Crichton.
Ouais, j'ai dit Crichton, mais il y a une de ces trois prononciations qui est la bonne et je ne sais plus, mais il me semble qu'il ne sait pas Crichton.
On va alterner. On va dire Crichton,
bref.
Crichton.
Ouais, c'est pas grave. Crichton. C'est pas grave. Michael Crichton, qui est aussi un auteur à succès.
Qui est surtout
enfin,
un auteur.
Qui était, parce qu'il n'est plus de ce monde, malheureusement.
Et il est surtout connu pour ses livres, en fait.
Ouais, pour ses livres, ouais. Pas mal de livres de science-fiction, d'ailleurs. Entre le mystère Andromède, Jurassic Park...
Il y a toujours un petit thème...
Sphere... Il y a souvent un thème scientifique dans ce qu'il fait.
Il aime bien, en tout cas.
Ouais.
Il aime bien, parce qu'il y en a plusieurs... Et des romans qui ont inspiré plusieurs films, aussi.
Ouais.
C'est ça, hein.
Puis Westworld, qui était son... Premier long-métrage, si je ne me trompe pas, il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est son premier.
Oui, c'est son premier.
Oui,
tout à fait.
C'est ça.
J'ai tout lu, un petit peu là-dessus. C'était,
t'as vu toute sa bio.
Ben, j'ai lu sa bio autour du film.
Ouais. Et puis qui était aussi à l'origine de séries télévisées comme ER.
Oui.
J'avais oublié ça, j'avais complètement oublié.
Effectivement.
Mais donc, c'est ça. Et donc, c'est ça, ce film qui date
dans Jurassic Park aussi.
Oui, Jurassic Park, j'en ai parlé, tantôt.
Ah, tu l'as dit? Excuse-moi,
Jurassic Park, bien sûr. D'ailleurs, Westworld, est quelque part, est un peu...
Un remake.
Un précurseur.
C'est ça, un peu.
Un précurseur, oui. Donc, c'est ça. Et le film, donc, Westworld, qui date de 1973.
Mais c'est ça, pendant qu'on parlait, je suis en train de regarder dans IMDb, là. Mm-hmm. Et puis, il y a zéro, à part Westworld, tous les autres films ne sont pas connus là, de lui. Là. Donc, c'est vraiment plus connu comme étant un auteur. Parce qu'il y en a fait quelques-uns après Westworld.
Ouais.
Et donc, des films comme Coma, ça dit quelque chose?
Oui.
Ah ouais?
Comment c'était pas un film avec Geneviève Bujold et Michael Douglas, non? C'était pas ça?
Ça se peut, sur la photo, on dirait Geneviève Bujold.
Oui, Geneviève Bujold.
The Great Train Robbery.
Geneviève Bujold, québécoise. Michael Douglas, ouais.
Il a vraiment fait un film avec Tom Selleck, comme on voit sa photo. Physical Evidence.
Physical Evidence, que je n'ai pas vu. Mais par contre, j'ai vu...
Mais c'est ça, c'est pas bon.
The Great Train Robbery, ça, je l'ai vu. C'était son western qu'il voulait faire au départ et puis qu'il n'avait pas les moyens de faire. Sinon,
mais
Looker...
Mais
Looker, Runaway, c'est toutes des films science-fiction ou à tendance scientifique, quoi.
Mais un peu série B, là.
Et puis sinon, parmi... comment un peu série B?
Ben, je veux dire, ça n'a pas l'air bon. Looker, ça n'a pas l'air bon.
Moi, j'avais bien aimé à l'époque. Ça a mal vieilli, je pense, mais...
Regarder la photo, ça ne me donne pas envie de voir le film. Je dis juste ça comme ça, là.
Oui, il y a quelque chose que j'avais bien aimé dans ce film-là.
Ouais, mais j'aime les mauvais films de science-fiction des années 80, par exemple.
Ouais.
Ça fait partie de mes préférés. Parce que c'était comme...
Innocent.
Non, c'est comme dans les années 70. Ben, c'est parce que c'était, t'avais une belle époque de la science-fiction en littérature, tu sais, dans les années 80 puis 70. Ouais. Et puis, ça, c'était zéro représenté au cinéma. C'était comme...
C'est vrai.
C'était comme s'il y avait une séparation entre ce qui était écrit et ce qui était fait. Mais moi, je trouve que Michael Crichton, on le connaît quand même plus pour ses livres. C'est plus pour moi un best-seller dont les livres ont été adaptés au cinéma. Là.
Oui, il a écrit beaucoup de choses pour la télé et le cinéma aussi.
Comme, hein, tu vois, en tant qu'auteur, écrivain, il y a 41 titres, puis réalisateur, il y en a 8. Puis là-dedans, il y a juste Westworld qui, selon moi, a un petit côté culte. Là.
Ouais.
Sinon, le reste... C'est ça. ER, il écrivait dans ER, il n'était pas réalisateur. Ben
Je crois même qu'il était
The Andromeda Strain. C'est lui, ça. Andromeda Strain, c'est un classique, ça. Sphère, comme tu as dit tantôt. Twister.
Ouais, Congo. Ouais, Twister, par contre, j'avais oublié.
Disclosure.
J'avais complètement oublié que c'était lui qui avait écrit ça. Ouais, Disclosure. Tu vois, là, c'est ce qui est non scientifique. C'est Disclosure, c'est Rising Sun, c'est des choses comme ça.
Ouais.
Mais sinon, il y a pas mal de choses avec une teinte scientifique quand même, quelque part.
The Andromeda Strain, c'était avant Westworld.
Donc, ce soir, Westworld. Et alors,
on est parti dans la discussion sur Michael Crichton.
Chaque fois, on fait ça. On va juste mentionner le petit vin rouge que tu nous as trouvé.
Qui s'appelle Decoy. L'as-tu goûté? Tu n'as pas pris encore?
Non, je n'ai pas goûté en plus.
Moi, je dis qu'il est bon.
Vas-y, alors, explique-nous un petit peu.
Ça y est, je suis encore celle qui a trop bu. Ça commence mal la soirée. Donc, bois le vin pendant que j'explique que ça s'appelle Decoy. C'est un vin américain. Donc, Pinot Noir de... Je ne sais pas si... probablement de Californie.
Bon.
En général, c'est de Californie, les vins américains, mais plus maintenant, tout le temps.
Il est très bon, en tout cas.
Très, très, très intéressant. C'était... Et pourquoi je l'ai choisi? Ben, c'est parce qu'on a un petit canard
un faux canard de chasse. Là,
un faux canard de chasse. C'était le thème de la chasse qui m'intéressait parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. C'est un peu comme si c'était les leurres qui se vengeaient et qui partaient à chasser les humains. Donc, j'y ai trouvé un lien. Et je trouve que le vin, en égouttant, va bien avec le film parce que c'est un vin qui n'est pas prétentieux pour un vin américain, ce qui est rare. Et c'est ce que je trouve du film, en fait, de Westworld, quelque chose de très rafraîchissant dans ce film, mais je vais en parler plus tantôt. Mais je trouve que c'est un vin qui représente bien ce dont on va parler ce soir.
Avant de partir résumé, est-ce que toi, tu voulais faire une petite... tu m'as dit que tu avais une petite plug à faire, un petit quelque chose?
Oui, donc moi, je vais juste mentionner que j'ai commencé à écouter un documentaire sur Netflix qui s'appelle « The Secret Rule of Modern Living Algorithms ». Et c'est un documentaire très intéressant qui explique un petit peu l'importance des algorithmes dans notre vie moderne par rapport aux ordinateurs. Bon, quand j'ai étudié en informatique, à une certaine époque.
Dans une autre
en
vie.
Plus, dans une autre vie, j'ai étudié en informatique et en physique, ce qui me donne toute la crédibilité du monde pour être ici. c'était intéressant parce qu'il expliquait vraiment j'ai revu plein d'algorithmes qu'on avait étudiés, puis peut-être pour des gens qui sont peut-être moins au fait de la science ou de l'informatique et tout, c'était très bien vulgarisé, très simple. Puis ça expliquait très, très bien les algorithmes. Très intéressant, un beau petit documentaire sur Netflix. Netflix qui nous offre beaucoup de beaux documentaires. Alors, je voulais souligner, ça vient d'arriver là, sur Netflix, je ne l'avais pas vu avant. Puis,
donc, redis-moi le titre, c'est...
Secret Rules of Modern Living Algorithms.
The Secret Rule of Modern Living Algorithms. OK.
Ouais. Et puis, voilà.
Pas un titre simple, mais ça a l'air bien intéressant, en tout cas.
Non, je vous le conseille là, pour les gens qui sont curieux de comprendre un peu l'envers de la machine. Ce que nos personnages dans notre film auraient eu avantage à faire. Et ça va toujours avec le film.
Eh bien, puisqu'on y arrive, allons-y. Un petit résumé de Westworld. Dans un futur antérieur, la compagnie Delos offre une expérience de divertissement unique sous la forme d'un parc à thème dans lequel les clients peuvent s'immerger dans trois mondes, Medieval World, Roman World et Western World. Ces mondes sont peuplés d'androïdes qui répondent aux moindres fantasmes et désirs des clients, jusqu'au jour où une défaillance du système informatique déclenche chez ces robots des comportements meurtriers.
Et là, c'est la merde.
Toi, tu l'avais déjà vu, ce film?
Bien sûr. Ce film-là, c'est pour moi le film par excellence de mon enfance. Ah. J'écoutais ça... je me rappelle des annonces qui annonçaient que le film allait jouer. Tu sais, les annonces à la TV là, qui annonçaient le film. Puis c'est drôle parce qu'en regardant le film, je cherchais les moments de l'annonce dont je me souvenais et je ne trouvais pas. Je me disais, non, ils ont coupé des scènes. Puis j'ai appris d'ailleurs qu'il y a une version différente pour la TV puis une version cinéma qui était différente. Tu sais.
C'est souvent le cas.
Je me demande Netflix quelle version ils nous ont montré, mais je pense que c'est la version cinéma et pas la version qui était pour la télé.
Tu l'as vu sur Netflix, toi?
Oui, je l'ai écouté. Pas sur Netflix. Je l'ai acheté, mais je ne sais pas. Je l'ai acheté sur iTunes. Donc, c'était pas sur Netflix. Non, il n'était pas disponible sur Netflix.
Okay.
Non, parce que j'ai commencé par vérifier s'il était sur
Netflix. Oui, c'est clair. Ouais.
Et donc, et c'est vrai, je l'ai acheté. Hein, j'insiste. J'achète plusieurs films, surtout ceux que j'aime. Et donc, c'est ça, j'en gardais vraiment un souvenir. Fort, tu sais, ton souvenir d'enfance d'un film que tu aimais puis que tu regardais souvent, mais seulement quand il passait à la TV, c'était avant les cassettes vidéo, là. C'était avant le VHS qui arrive. Donc, on fait pas.
Oui, parce que le VHS, c'était quoi, début des années 80? Je sais plus.
Le VHS, c'était 85 environ. Parce que
pour
c'était.
85.
Ouais. Mais quand est-ce que c'est sorti, Trader? Parce que je me rappelle, il y avait Trader venait de sortir.
C'est une bonne question.
C'est 83, je pense.
Peut-être autour de 85.
C'est 83, il est sorti en 83. 84. Ouais. Puis, non, mais là, c'est ça, c'est 10 ans plus tôt, puis ça jouait à la télévision, mais j'avais peut-être 8 ans. Donc, c'était 7 ans, 6, 7 ans. Donc, ça, c'était peut-être ça, en début des années 80. Donc, c'était juste avant. Donc, on ne l'avait pas enregistré, mais il jouait souvent. Là, genre, il ne devait pas être cher. Puis TVA avait dû l'acheter pour le... Ou Radio-Canada, je ne me rappelle même pas lequel des deux postes nous présentait Westworld. Et donc, je peux te dire que, si tu me demandes la question, la première fois que j'ai vu comment j'ai trouvé ça, j'ai adoré. J'avais adoré ça avec mon cœur d'enfant. Et puis, en le revoyant, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu, j'ai été... J'ai pas été déçue du film. J'ai été, évidemment, c'était pas le même coup de cœur que quand j'étais enfant ou que tu regardais. Parce que on devient vite blasé de la vieille science-fiction qui avait comme. Ouais. Tu sais, je veux dire, qui avait pas pensé que les choses deviendraient miniatures. Tu es comme, ouh, quel robot impressionnant avec des circuits électroniques gros comme. Beaucoup trop gros, quoi. Ouais. Mais quand même, ce que j'ai aimé du film, c'est que c'est un bon film. C'est un film dont le rythme est intéressant, dont les personnages sont intéressants, dont les comédiens jouent bien. Là, je veux dire, on n'est pas dans des grandes prestations d'acteurs, mais on est dans des prestations d'acteurs intéressantes. T'sais, il y a comme une sorte de limite de la caricature qui n'en est pas une, tu sais, qui est... qui fonctionne super bien. On croit à ces personnages-là, finalement. On ne nous en dit pas trop, on en dit juste assez, donc on n'est pas dans l'explication de rien. On comprend tout. Puis il y a une fin qui est très minimaliste aussi, qui est très, très bien, qui fonctionne très bien. Ça, on aurait tellement pu nous laisser une fin qui n'en finissait plus avec... Mais ça finit au bon moment, puis ça ne va pas plus loin. Donc oui, j'étais contente de revoir ce film-là, puis de l'apprécier, puis que ce n'était pas pour rien qu'enfin je l'avais trouvé bon. Et ça reste, selon moi, un film culte. Toi, Nick.
Ouais, moi.
C'est quoi ton histoire avec Westworld?
Écoute, je sais plus quand je l'ai vu, mais j'étais jeune et je pense que ça devait être des rediffusions à la télévision aussi que j'ai vu. Je l'ai pas vu au cinéma. Je sais pas si la première fois c'était à la télévision ou si c'était. Enfin, oui, c'était à la télévision, mais j'entends si c'était une diffusion par une chaîne TV ou si c'était une cassette. Ou si je l'ai vu dans les années 80 sur cassette. Je me rappelle pas. Je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait fait pas peur, mais ça me faisait angoisser. Tu sais, ce robot qui te poursuit, qui n'abandonne jamais, tu sais, qui est toujours là, qui continue. Tu sais,
c'est hyper angoissant.
Ce qui a complètement inspiré Terminator par la suite, tu sais, le même genre de choses. Tu sais, genre le robot qui est là, puis qui abandonne jamais, qui est toujours, qui se relève, puis qui continue. Et donc ça m'angoissait, tu sais, mais j'avais trouvé ça bien. J'avais trouvé ça très bien, puis... Tu sais, cette image iconique du visage qui s'enlève avec les circuits dessous et tout ça. Enfin, ça, c'est le truc qui reste, quoi, qui marque. Surtout Yul Brynner, à cette époque, habillé en noir. Tu sais, il a le même costume que dans Les Sept Mercenaires, qui est un film que j'adore. Tu sais,
Magnificent Seven, pour Magnificent ceux qui connaissent
Seven,
le nom
Magnificent Seven.
Que j'ai pas vu, mais inspiré des Sept Samouraïs.
Inspiré des Sept Samouraïs, ouais.
Et à chaque fois, je peux parler des 7 semaines de Kurosawa, je vais le faire. Je pense que j'en ai parlé dans le dernier épisode ou dans 3 autres.
Ah ouais?
Regardez dans les shows. Non, 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 c'est un de mes films préférés. C'est un film que je considère que on peut l'écouter. Que n'importe qui n'aime pas le cinéma d'auteur ou qui dit j'aime pas les vieux films, j'ai pas film noir et blanc, moi je lui lance toujours le défi. Écoute les 7 samouraïs de Kurosawa. Après ça, tu as le droit de dire ce que tu veux, que tu n'aimeras pas. Si tu n'aimes pas ça, je te crois. Mais il faut que tu écoutes ça. Moi, c'est mon test. Cinéma d'auteur, cinéma étranger, cinéma en noir et blanc, vieux film. C'est impossible de ne pas aimer les 7 samouraïs. Tellement bon.
Ouais, c'est génial.
C'est juste magnifique. Et donc, on a fait une petite digression, mais
toujours.
Magnificent Seven, c'était les 7 samouraïs dans un contexte de Western.
De Western, c'est ça. C'était le remake de Robert Wise. Mais je ne me rappelle plus le réalisateur. Là, je l'ai pas... Non, ou John Sturges. Je l'ai plus en tête.
Je pense qu'il était assez connu.
Mais donc, c'était... Et puis, lui jouait le rôle du cowboy Chris, là, un des 7 qui est embauché pour... qui est recruté pour régler le problème du petit village mexicain ou du petit village à la frontière, là, où je ne sais plus.
John Sturges,
c'est ça. Et il était habillé pareil, tu sais, tout en noir, comme ça. C'était le seul de la gang qui était habillé tout en noir et tout. Mm. Puis cette même posture, tu sais, le gars qui parle peu, mais toujours pour dire un truc, tu sais, droit dans ta face. Tu vois, avec son regard acier, comme ça, qui était avec Steve McQueen, que j'adore.
Steve McQueen est extraordinaire.
Donc, ça, c'est des images qui te restent. Et puis, donc, je ne l'avais pas vu depuis extrêmement longtemps, là, moi non plus. Et c'était drôle de le revoir, parce que tu vois tout ça, petit, tu sais, tu vois... Moi, je trouvais que le jeu était un peu cheesy. Là. À voir tout ça, je voyais ça, les deux,
oui,
là...
Oui, mais c'est une caricature,
Josh Brolin
là.
Et Richard Benjamin. Oui, c'est une caricature.
C'est voulu, là, c'est pas...
Ouais, mais il y a un truc très... En fait, ça, je ne me rappelais pas, d'ailleurs. Il y a un truc très... c'est la musique, je trouve, qui donne un ton très... léger finalement à ce film-là, tu sais. C'est pas... Là,
bah, évidemment,
tu le vois maintenant,
la musique.
Tu le vois maintenant, ça a comme... C'est pas que ça a vieilli, mais oui, ça a vieilli, donc ça te fait pas le même effet, ça fait pas peur comme ça le faisait à l'époque. Il y a un côté...
Il y a un côté vaudeville,
ouais,
genre la scène,
voilà,
la scène du bar.
Ouais, ouais.
Mais c'était...
Avec la petite musique sympa, là.
C'est ça, mais ça, c'était volontaire de la part de
De Crichton.
J'ai sorti la façon. C'était volontaire parce qu'il voulait comme représenter les films style western cowboy que tout le monde aimait à l'époque. T'sais. Puis il allait chercher. Toutes ces scènes-là, c'est des vraies scènes de films.
Ouais.
C'est calqué sur des scènes de films de l'époque. Puis. Je pense que dans les années 70, le western était fini. Là. T'sais, c'était la grande époque du western, c'est les années 50.
50 et 60. Ça finissait dans les années
60. 50, les derniers bons westerns, c'est ce qu'on a appelé les western spaghetti, mais c'est pas des vrais westerns d'une certaine façon. C'est comme un tripeux de western qui a fait ses westerns, mais c'est pas des westerns...
C'est pas de l'authentique, c'est pas John Wayne, c'est pas...
Ouais, c'est ça, tu sais.
C'est pas la source.
Puis tu sais, je pense que le pire, c'est que je les ai pas vus, les Magnificent Seven, mais ça, c'est encore... C'est à la fin, là. C'est comme des westerns rococo, là, à cette époque-là.
C'est les années 60.
Mais c'est la fin, là. C'est ça que je veux dire. C'est comme... peut-être pas rococo, mais peut-être maniéry, je dirais, là. Tu sais, c'est comme... T'avais les classiques, puis après, les classiques viennent ce qu'on appelle les maniéristes, là, en peinture. Là, les maniéristes, c'est comme ils prennent le classique. Puis autant les classiques essaient d'être réalistes, mais ils ne le sont jamais. Une représentation créative, c'est toujours une représentation. Mais là, après ça, arrivent les maniéristes. Eux autres, c'est qu'ils vont comme se servir. C'est un peu comme ce que fait Tarantino par rapport au western. C'est qu'ils transforment complètement le style du film de gangster, là, lui propre. Mm-hmm. Il met de la couleur dedans. Donc, je pense que déjà, dans les années 60, c'était la fin. Donc, lui, il a repris tous ces films-là, puis il a fait une sorte de pastiche aussi. Là. C'est un peu ça, parce que le parc d'amusement, c'est ça que j'ai remarqué en le regardant, c'est pas si vrai que ça. T'sais. Comme quand ils vont coucher avec les prostituées, là, elles sont full automates. Là.
Ouais.
T'sais, c'est comme full automates.
Elles sont glaciales, les prostituées.
T'as vraiment...
Pas beaucoup de chaleur. Là.
Peut-être, mets donc un petit extrait de la scène des prostituées là, avec la fille qui parle comme ça. On va le...
Ouais, c'est une bonne idée. On fait ça.
That's Cindy and Arlette. Arlette's from Paris. Perhaps you gentlemen are taking a liking to them.
Perhaps.
They're real accommodating.
There you go. You look it.
John, listen.
Why don't you just go on upstairs and we'll reckon accounts later.
John,
it sounds good to me.
Are those two girls machines? Now, how can you say a thing like that?
Donc, ce ton-là fonctionne, selon moi, cette idée-là qu'on n'est pas dans un endroit si réel que ça, tu sais, que c'est un jeu, que c'est un parc d'attractions. C'est ça qui va rendre le côté détraqué encore plus inquiétant. Parce que si tu étais déjà dans un vrai western, si tu étais déjà dans un... Tu sais, s'il y avait déjà des vrais enjeux sérieux, le moment où est-ce que ça se déraille... Parce que c'est ça, c'est un film qui change, en fait. C'est un film qui change d'atmosphère.
Ouais.
Quand il commence à tuer, parce que là, c'est plus drôle, là, tu sais, c'est vraiment lugubre, là. Le truc médiéval, là, où est-ce que t'as le roi puis la reine assis, puis qui, ben, le chevalier noir puis la reine assis, puis tu sais, bon, ils sont probablement morts, la batterie est à terre, mais t'es pas sûr, tu sais.
Ouais, 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 c'est
très inquiétant.
C'est très creepy, là, ouais.
C'est super creepy.
Un côté très inquiétant, c'est vrai. Ouais, parce que c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que c'est pas réel. Finalement, c'est ce qui s'approche le plus d'une vraie interaction.
Mm-hmm.
Mais oui, il reste toujours ce côté
c'est une simulation, là.
Moi, en fait, ce qui m'a le plus gêné, enfin, gêné, c'est pas le mot, mais je me disais, ouais, le réalisme n'y est pas, c'est que t'es dans un parc où t'as l'impression qu'il y a qu'une gang de scientifiques qui sont derrière leurs ordinateurs puis qui gèrent tout ça. Occasionnellement, tu vois des petites équipes de maintenance, mm-hmm. etc., qui arrivent. À aucun moment, tu vois des équipes de sécurité. Pourtant, tu te dis, avec un truc d'une telle envergure, où ils utilisent des vraies armes qui ont juste un petit capteur qui fait qu'ils vont reconnaître si t'es un humain ou pas un humain, tu te dis qu'il devrait y avoir comme un espèce de système de... au moins une équipe de sécurité. C'est pas un système de sécurité, mais une équipe qui sont là après intervenir.
Ah, c'est drôle que ça t'a dérangé, moi pas du tout. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que tu l'as vu comme ça.
Du moment où il y a un problème, tu te dis, tu verrais comme des équipes qui débarquent, quitte à ce qu'ils se fassent tous désinguer, tu sais, parce que voilà, ils sont débordés par les événements. Mais à aucun moment il y a ça. Tu as l'impression que tu as la gang de scientifiques dans leur petit bureau, enfin petit bureau, dans leur centre d'ordinateur et tout ça, derrière leur petite lumière qui flash et tout. Et puis les clients dans leur monde, puis que. Les clients sont un petit peu comme livrés à whatever.
Dans un vrai parc d'attraction, tu n'as pas la sécurité pas apparente, là. Ce qui se passe, c'est que quand on va à la ronde, par exemple, ouais. on prend pour acquis que la machine, elle ne va pas se retourner contre nous. Quand tu embarques dans le monstre, la montagne russe,
c'est vrai.
Tu ne penses pas que la montagne russe va
Il va y avoir une panne ou va se décrocher
et tout. Ouais. C'est comme scientifiquement prouvé que ouais. tout, les trucs qui tournent en rond, ça suit les lois. Puis oui, on entend parler de quelques histoires dans le monde où est-ce que ouais. il y a une montagne russe.
Ça arrive, il y a des accidents. C'est
ça,
qui
mais ça arrive. Il y a plus d'avions qui s'écrasent que de montagnes russes qui sortent de leur truc. Puis je pense que c'est un peu l'idée.
Par défaut, une machine n'est pas infaillible, tu sais. Puis
il peut y avoir un
sable dans l'engrenage.
Oui, puis non, parce que c'est là que c'est une fable aussi. Parce qu'on vit en ce moment dans un monde où est-ce qu'on prend... Tu rentres dans l'ascenseur, tu ne penses pas que l'ascenseur va tomber. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais,
c'est
vrai.
On est ici, puis on a plein de machines autour de nous, puis on a zéro crainte qu'il y en a une qui va exploser. J'ai un frigo, j'ai un micro-ondes, j'ai un micro, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone. Je veux dire, le seul danger à mon téléphone, c'est moi qui s'enferme dans un trottoir, tu sais. Comme je l'ai prouvé cette semaine. C'est pas le contraire. Donc, on vit dans un monde où est-ce qu'on a plein de machines et tout, puis dans l'idée de ce monde-là, qui est un monde futuriste, c'est... Tu sais, si tu vas à Disney World ou à Epcot Center ou dans ces trucs-là, t'en as là, des espèces de petits bonhommes robotisés.
Oui, d'ailleurs, c'était l'inspiration, là. Je lisais dans le trivia qu'une de ses inspirations pour ça, c'était justement en allant à Disney World...
Dans Pirates of the Caribbean.
Ouais, Disneyland, puis en faisant les Pirates of the Caribbean, ouais, il a vu tous les... ce qu'on appelle maintenant les animatroniques, là, les mm-hmm. espèces de... tu sais, les robots à face humaine et tout ça,
mm-hmm.
qui bougent de manière très, très réaliste. Ben, ça lui a donné l'inspiration pour ça.
Et donc, du coup, c'est, pour eux, c'est sécuritaire, parce que c'est le petit gun, mais c'est impossible de tirer un être humain. C'est un vrai gun qui, juste, ne va jamais tuer un être humain. Là, ça se déraille, puis là, il faut que t'acceptes ou t'acceptes pas. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qui est ridicule, c'est... Tu sais, comme les portes se ferment, les gens, ils meurent asphyxiés dans l'espace.
Voilà, oui, ouais, ça, c'est... Il y a un truc un peu invraisemblable. Enfin, c'est genre...
Mais on ne sait pas ce qui se passe.
Tout part en couille. Ouais, c'est
mais
comme...
C'est ça, l'affaire.
Tout part en couille, là.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les robots ont décidé de se rebeller. Les robots, ils vont tuer tous les êtres humains qui peuvent. Puis ils ont une heure pour le faire, parce qu'après ça, ils n'auront plus de batterie, tu sais. Puis c'est cool, parce que...
Ah, dans ce contexte-là, la loi de la robotique est inexistante. Hein?
Non, c'est ça, la loi d'Asimov est inexistante.
C'est... Pourtant, en 73, elle était encore fraîchement dans les esprits, je suppose, non? Ou elle n'était pas encore... Elle était... C'était...
Ben oui, les années 50.
Oui, c'est ça, date des années 50. Donc,
ah oui, non, mais tout le monde... Non, mais l'affaire avec la loi de la robotique d'Asimov, c'est que... Asimov, quand il a écrit son livre « iRobot », ceux qui ont écouté notre épisode sur iRobot vont m'avoir entendu exactement la même chose, parce que je suis quelqu'un qui radote. Quand il a écrit ça, c'est parce qu'il était tanné des films de robots où est-ce que les robots étaient méchants puis ils tuaient tout le monde. Genre « iRobot », le film. Et c'était la raison principale pourquoi j'ai détesté le film. Vous pourrez écouter ma chicane avec Olivier là-dessus. Donc, Asimov vous a dit, si on est pour faire des robots un jour, on va les faire de façon intelligente, puis ils ne pourront pas nous tuer. D'où les fameuses lois de la robotique. Donc, il s'est dit, parce que tout le monde pense que si on fait des robots, ben, ça va être des robots qui vont devenir automatiquement contre nous. Donc, on les a tous, hein, les Terminator, puis des vieux films des années de science-fiction.
Et là, Skynet est constamment dans le discours aussi, parce qu'on est en plein dans l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus...
Mais paradoxalement, en même temps, on est très loin du rêve des robots parce que tous les gens qui font des robots, ben, c'est plus des animatroniques, comme tu dis. Un robot qu'on voit là, qui a l'air super hot et tout est plus une animatronique que d'autres choses. Parce que un robot avec une vraie intelligence, une capacité d'interagir puis avec une complexité émotive, il n'y en a pas encore. Là, ça reste des grosses machines à calculer. Là, puis après ça, des petits vers de terre un peu weird là, qui ont des réactions. on est vraiment loin, mais c'est sûr que dans le... Je veux dire, on n'a pas compris notre machine. Là. Notre machine, à nous, est extraordinaire, machine humaine.
Extrêmement complexe.
Extrêmement complexe, puis pas facile à refaire.
Voilà, c'est ça. Enfin, pas impossible, mais extrêmement complexe à reproduire.
Hein. Oui, puis ils pensent qu'il y a des échanges... Oui, c'est ça. Donc, tu sais, on n'est pas là. On va l'être peut-être... J'ose croire, parce que j'aime la science-fiction, puis la science, puis le futur, j'ose croire qu'on va y être un jour, mais là, on y est pas. Mais tout ça pour dire que... Là, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, iRobot, c'est ça. Dans iRobot, c'est vraiment l'idée des robots qui auraient été construits avec une sorte de code moral de base. Puis comme nous, on est un fruit de l'évolution, puis on a un code moral de base qui est que tu as plus de chances de t'en sortir si tu coopères avec les autres. Donc, tu as l'empathie, qui est quelque chose qui est né. On n'est pas tous des psychopathes sanguinaires que si on pouvait... Mettons que tu enlèverais toutes les lois au Canada, là, demain, tu dis, il n'y a plus de lois, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là. Les chances qu'on aille s'entretuer sont minces. Là. Je veux dire, oui, il y en aurait plus de meurtres. Là, parce que les gens qui vivent sans impunité ne se gêneraient pas, mais on n'a pas le goût de tuer. Là.
C'est le postulat de tous ces... Toutes ces histoires post-apocalyptiques, tu sais, The Road, Walking Dead, tout ça.
Oui, mais dans The Road, je sais pas Walking Dead, j'ai pas vu, mais dans The Road, je peux dire, il y a quand même un code société. Moi, ce que j'ai vu quand j'ai lu The Road, sur le coup, j'étais pas convaincue non plus. Mais plus tu lis le livre, plus tu te rends compte, il y a tellement rien qu'à un moment donné, l'état de survie fait en sorte que, tu sais, ceux qui survivent, c'est juste ceux qui vont devenir des cannibales, là.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, on a développé
t'as,
l'empathie.
T'as plus le choix, ouais.
C'est ça, on a développé l'empathie qu'on a dans un contexte d'abondance ou d'une jungle qui nous permettait de coopérer puis de survivre, donc, avec des ressources, tu sais. Puis peut-être aussi que ça serait intéressant de... Je sais pas si on fait des simulations ou est-ce qu'ils changent d'environnement puis de voir un peu c'est quoi les résultats. Là. Je pense qu'ils aiment bien faire ça, les simulations sur l'empathie, mais encore là, c'est des simulations avec des... paramètres très limités. Et bref, dans Westworld, je pense qu'on est, on a pas ces robots-là, effectivement, faits par Asimov. Mais c'est quoi la machine de Westworld? Puis c'est là que on peut le dire, il va y avoir un remake de Westworld qui va être fait, qui là, va peut-être s'arrêter dans quelque chose d'intéressant.
Déjà, il y a eu une suite que j'ai pas vue.
Mais oui, je l'ai jamais vu.
C'était pas bon.
Mais oui, ça passait à la TV, ça aussi. Puis j'en ai aucun souvenir, mais je me rappelle l'avoir vu.
Parce que je me rappelle du nom, mais je l'ai jamais vu. Et donc,
je
me suis dit, tiens, je devrais peut-être. Voir ça pour pouvoir
faire allusion. Non, c'était juste ordinaire.
Mais oui, alors effectivement, il va y avoir... Enfin, ça a été... on ne sait pas. Ça a été annoncé l'année passée, ou même, je crois, il y a deux ans.
Non, mais attends, ils ont le...
plusieurs fois. Maintenant, ça a l'air...
Il y a la bande-annonce qui est sortie.
Il y a une bande-annonce, mais qui n'est pas très récente, je crois. Je ne sais pas si elle est très récente. Donc, ça a l'air que ça vient cette année.
Ben, c'est HBO qui fait ça.
Il n'y a pas de date annoncée. Oui, c'est HBO, oui.
Puis c'est Nolan fils.
Ouais, avec Jonathan Nolan. C'est le frère de...
C'est pas son fils?
Son frère. Il y a un autre nom là, dans la gang.
Je sais pas pourquoi, j'ai toujours pensé que c'était son fils. J'ai mélangé avec un autre père-fils.
Un autre des showrunners qui est un tout bon aussi. Okay. Et puis il y a un cast intéressant. Et faut voir ce qu'ils vont nous faire avec une série finalement. Parce que là, le film nous parle d'un événement. Mais je pense que pour une série, ils vont partir dans différentes histoires, dans, dans les différents mondes.
Etc. Il est plus beau que son frère, en plus. Hein.
Qui d'autre comme showrunner sur la série?
C'est avec Anthony Hopkins, Ed Harris. Comment?
Ah ouais, non, mais il y a un beau cast.
Evan Rachel Wood, James Marsden.
Marsden, ouais.
Producteur J.J. Abraham.
Voilà, J.J. Voilà.
J.J.
qui est dans le coup avec.
Brian Burke.
Brian Burke, je ne sais plus. Brian mais Burke, en tout cas, rien que.
Ah oui, c'est lui qui a fait Cloverfield, puis Star Trek, puis Super 8, Mission Impossible. Oh, c'est un ami de.
C'est un pote
de
J.J.
C'est un ami de J.J. Ouais. Donc, c'est vraiment un projet de Jonathan Nolan.
Uh-huh. Mais espérons que ça voit le jour. C'est une proposition qui est intéressante quand même.
Ils disent que ça va sortir en 2016.
Ouais.
Alors moi, je dirais septembre.
Ça serait beau.
Octobre. Septembre, octobre.
S'il n'y a aucune date qui est annoncée. Donc, voilà.
Moi, mon feeling, c'est que... Oui, c'est ça, ils vont travailler l'univers, en fait. Ouais. Et c'est plus...
Ben, tu ne tiens pas une série avec juste l'affaire.
Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça qui est intéressant.
Du tout qui part en couille.
Westworld, c'était un très bon film. C'était vraiment un film, comme on en a pu, une histoire simple, avec une intrigue, un petit trailer, quelques personnages, avec pas de grandes histoires. C'est comique. On vit dans le monde de la série télé. Les films sont morts, là. Franchement, il faut se le dire, là. Les films, on parle de science-fiction, ça nous a marqué quand on était petit. Mais quand j'étais petite, un film, c'était le truc.
Ouais.
Maintenant, je ne parle que de série télé. De quoi on a parlé avant que t'arrives? De série télé. T'as-tu écouté tes séries? Je viens de me taper Narcos, Daredevil. Puis, tu sais, on était quand même. Puis, qu'est-ce qu'on va faire?
Il y a Game of Thrones qui repart.
Ouais, mais ça, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, tu vas peut-être voir passer Narcos sur Netflix, tu vas écouter un épisode, tu vas être hook parce que c'est ça que ça se passe. Puis, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ce soir, en me couchant, je vais mettre Daredevil. Puis, c'est comme lire un roman de 800 pages versus une nouvelle de 50 pages ou 100 pages. Tu sais, on est rendu là. Mais moi, j'avais un plaisir de voir ce film-là qui était à une époque où est-ce que les films... Il y avait une lenteur aussi là-dedans. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'à l'époque, t'écoutais un film, tu l'arrêtais pas, là. Fallait pas qu'à toutes les 30 secondes, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, le début, il est long, là. Ouais. Tu sais, ils arrivent pendant super longtemps. T'as le commercial... la publicité.
La publicité au début, ouais.
Qui est bien, qui amène le ton et tout.
Qui n'était pas dans le premier montage, d'ailleurs, qui a été rajouté après, mais qui donne une bonne exposition de ce que c'est. Moi, je trouve ça intéressant, en fait, comme début de film, les témoignages et tout.
Et parce qu'il y avait grève des scénaristes, ça a été écrit par un vrai concepteur publicitaire.
Oui. Oui, c'est vraiment drôle. Mais en même temps, je trouve ça intéressant comme introduction, finalement.
Oui, en fait, c'est bien parce que souvent, j'aime pas cette. Mais je me demande si on avait vu ça avant. Ça se peut-tu que ce soit Westworld qui ait donné le ton à toutes ces...
Peut-être
reportages.
Peut-être que ça a créé un
Attends, non,
un
il y avait...
précédent.
Citizen Kane, ça commence par un reportage.
C'est
pas
vrai.
Fine.
Ouais, c'est vrai.
Je pense que
OK, d'accord.
On va le donner à Citizen Kane, tu sais. Voyons donc. Mais c'est ça. Oh là là. Là j'ai entendu certaines personnes m'écouter faire « Marie-Louise! » Je le sens, là. Je suis comme « Excusez! » Mais oui, c'était... Puis après ça, t'as un long moment là, avant qu'ils se rendent, qui est super long. Là, où est-ce qu'ils
t'as
comme...
toute l'arrivée dans l'avion. Mais là encore, c'est du world building.
C'est pas
building.
L'avion, c'est...
Aéroglisseur. Oui, un aéroglisseur. Mais en même temps, je trouve que ça permet de faire connaissance avec les comédiens, avec les deux acteurs principaux et les deux personnages principaux. T'en sais pas trop sur les deux-là, mais je veux dire, en quelques phrases, tu cernes un petit peu le type de personnage. Et puis, tu comprends ce qu'il faut comprendre. Il y en a un qui était déjà là, puis il va avec son pote, il n'est jamais allé, puis il pose plein de questions, puis il est très curieux, puis c'est comme le
puis
truc.
Puis, il est déprimé parce que sa femme l'a laissé, quelque chose du genre.
Voilà, et puis ça va être les vacances de fun et tout ça, là. Parallèlement, tu vois toute la gang de scientifiques devant leurs petits écrans qui flashent de tous les côtés, là.
Puis t'as quelques personnages tertiaires dans d'autres mondes, c'est tout.
Voilà, et puis ça te plante un peu le décor. OK, voilà, tu vois que c'est le truc qui est complètement géré par toute une gang de scientifiques. Tu sais, tout est programmé, machin, minuté. Il y a des écrans partout. C'est pas si long, finalement, tu sais, ça te...
Non, je voulais pas dire que c'est long, c'est un film qui a des longueurs, mais quand je dis longueur, là, on s'entend, là, je parle pas d'Antonioni ou Tarkovsky, là, je parle juste qu'il y a des moments qui se passent pas grand-chose.
C'était un rythme qui était
oui,
c'était
mais
un rythme de l'époque, en fait, finalement.
Oui, tout à fait, mais tu sais, t'es à l'époque des années 70, c'est quoi, c'est Godfather, c'est Le Parrain, c'est des grands films,
ouais.
C'est une grande époque du cinéma américain, là,
ouais.
Puis ce film-là... Et quand même de son temps, là, tu sais, dans le sens qu'il nous sert pas. Il nous sert des plans assumés, il nous sert des scènes qui. Puis, Christian, il l'a remonté, hein, son film au début, il l'aimait pas parce qu'il le trouvait pas assez rythmé, justement. Donc,
Et c'était plus long.
Puis la fin, elle est. Tu sais, elle est bien, là. Tu sais, moi, j'aime ça, là, qu'il ne se relève pas trois fois, le robot, avant de mourir, là. Tu sais, c'est un truc...
Bah, il revient quand même plusieurs fois, là.
Non, mais il revient juste assez, tu comprends? À la fin, quand il est mort, il est vraiment mort, là. Ouais. Tu sais, il essaie, mais il tombe, puis... J'ai aimé, moi, ce film, je le défends.
Ah, mais moi aussi. Moi aussi, c'est juste que en le voyant là, je suis là... Ah, il y a ce petit côté cheesy, tu sais.
Ouais, je sais ce ça, que tu
c'est finalement, tu le prends pas tellement au sérieux. Tu sais, c'est comme... C'était, moi, enfin, beaucoup plus jeune, j'avais un souvenir d'un truc angoissant, tu sais, et tout. Et de le revoir là, il y a une espèce de légèreté, tu sais. Mais finalement, qui marche assez bien. Les deux personnages qui prennent ça super à la légère, jusqu'à ce que ben, ça commence à merder, là.
Puis c'est assez soudain, là. Ouais, tu sais, quand ça merde, ça... Poum.
Ouais, c'est assez abrupt. Et comme tu dis, il y a un changement de ton, là, qui est intéressant. Mais...
Bon, est-ce que c'est un film qu'aujourd'hui, tu prendrais... mettons qu'on prend un jeune là, de 22, 23 ans, là, pour lui dire, regarde ça, là. Ça marcherait-tu? C'est-tu ça que tu veux dire, ton fling? C'est pas un film, tu sais. N'importe qui va écouter Alien, Blade Runner, voilà, c'est bon, là.
Ouais.
2001, c'est bon, là. Il n'y a pas... Là-dedans, c'est peut-être justement le...
Non, mais
ce
c'est
que
là où
je disais tantôt, c'est comme les circuits ne sont pas miniaturisés, on n'y croit pas. Il ouais. y a bien des choses auxquelles on ne croit pas. Puis leur idée du gun, qui, je lisais les gouffres puis les erreurs. C'est comme, ah ouais, comme ça, les guns, ils tirent... ouais. Ils ne tirent pas si un corps est chaud, t'sais, mais puis ils vont juste pouvoir tirer des corps froids. C'est cool, les robots... prostituées qui ont des corps froids, ça doit être le fun. Là, mais après ça, je finis avec un contre-argument. Je dis oui, mais peut-être qu'on peut pas tuer les robots prostitués. Ils ont peut-être un corps chaud pareil, mais ils ont pas le droit d'avoir de gomme. Mais c'est pas grave, tu sais. Ils sont pas faits pour être tués. C'est les cow-boys qu'on tue, tu sais. Puis là, en tout cas, ils sortaient plein d'exemples avec les épées. Donc oui, il y a beaucoup de défauts à ce film-là, mais un peu comme on parlait d'Ascension la dernière fois, quand tu commences à trop analyser ces choses-là...
Ouais.
Mais... Tu sais, je veux dire... Y a,
ouais, mais Ascension...
Il y a des films qui... Mais il y a des films...
Ascension, c'est beaucoup plus ambitieux comme truc. Ça, je trouve que Westworld, c'est maîtrisé.
C'est ça.
C'est pas prétentieux.
Effectivement.
Et non, je trouve que maintenant, il mérite bien son statut de film culte, en fait, plus que classique. Tu sais, tu parlais de Blade Runner, Alien, tout ça. C'est des films cultes, mais aussi des classiques.
Oui, on est d'accord.
Ça, c'est pas... Ben, je sais pas. Il faut voir la définition qu'on en fait du classique ou du culte.
Non, mais je vois la différence. Quand tu veux dire un film classique, c'est un film qui a comme défini un genre. Un film culte, c'est un film qui a marqué une génération ou un groupe de personnes. Ça peut être une petite niche. Là. Je pense qu'il y a des films cultes que je connais pas, mais qui sont cultes pour... genre,
oui, il y a des trucs obscurs qui sont
devenus. Si tu es un amateur de chasse de zèbres, je suis sûre qu'il y a un film culte qui existe pour toi. Mais je fais pas ça, moi, je chasse pas le zèbre, tu sais.
Non, c'est ça, je pense que...
Ce qui me fait penser, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des films cultes de pêche de doré ou de chasse de perdrix. Ça, je fais ça.
Aïe, 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 aïe.
Je les connais pas. Mais non, non, c'est ça, mais tu sais, comme joke à part... C'est une bonne idée, là. Tu sais, c'est une idée simple qui est bonne, là. Le parc d'attractions qui se déraille parce que tu t'en vas là t'amuser. Ça pourrait être un film d'horreur, mais c'est pas un film d'horreur parce que c'est plus de la science-fiction, mais c'est angoissant, tu sais. Si ce qui serait le fun, c'est de refaire Westworld, mais comme un film d'horreur à la Freddy, là, tu sais, où est-ce que là, ça...
Ouais.
T'as les codes de l'horreur dedans. Là, on n'a pas les codes de l'horreur. On a vraiment les codes du trailer, là, tu sais.
Ouais.
Parce que le...
Ben, y a eu des... Ouais, je pense qu'il y a eu des films dans le genre... Peut-être pas de cette envergure-là, mais il y a eu des films genre...
Ben, c'est sûr qu'il y a des films de série B.
Des trucs où t'as le funhouse qui devient un truc d'horreur.
Oui, c'est sûr. Ben,
Ouais. Et puis, bon, ça a été quand même le précurseur de Jurassic Park.
Donc,
Jurassic Park raconte la même chose, finalement.
Ben, c'est la même histoire.
Ouais. Sauf que c'est pas des robots.
C'est des dinosaures.
C'est des vrais. Tu sais, qui ont été...
Biologiquement, des vrais hommes. Voilà. Mais c'est la même histoire, mais c'est magnifique.
Ah ouais, là aussi, le truc qui part en couille. Sauf que...
Mais Jurassic Park est plus classique, je pense, comme film. Il a été réalisé par un... Il faut que tu fasses la différence aussi. C'est que
oui, c'est un réalisateur majeur.
Au sommet de sa maîtrise, tu sais, qui était probablement au top de sa carrière. Jurassic Park, là, je pense pas que... Je pense qu'à ce moment-là, Spielberg avait plus rien à prouver, absolument pas. Ouais. Personne. Puis il était comme.
À part que la seule chose qu'il avait approuvé, c'est que est-ce qu'on allait y croire à ces dinosaures? Et oui, le pari était gagné. Je veux dire, à ce jour, ça reste un des films de dinosaures le plus réaliste.
Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu, mais à chaque fois que je vois ou que je revois des extraits, je suis comme, oh, wow, c'est encore bon. Mais c'était.
Attends, pour l'époque,
en plus,
là,
c'était au début.
Hein.
Là, ouais.
Mais. Ouais, Jurassic Park, c'est moins. C'est moins, comment dire, random comme accident. Dans le sens où il y a une raison pour laquelle...
Oui, il y a virus informatique qui...
Bah, là, dans Westworld, ouais.
Non, mais Jurassic Park aussi.
C'est une histoire de virus informatique. Moi aussi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu.
Il a été mis par le méchant.
Voilà, le c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais dans, voilà, dans Jurassic Park, il y a une raison pour laquelle le parc... Enfin, ça tout part en couille, tu sais. Parce que
le geek gros nonuche, là.
Voilà, il y a des gars qui l'ont payé pour qu'il pique des embryons, machin, etc.
Puis il meurt, de toute façon.
Voilà. Mais donc, il y a une raison. Il y a un méchant dans l'histoire qui est pas identifié, mais il y a quelque chose qui fait que... Alors que là, c'est un accident, finalement. À aucun moment, on parle d'une...
On parle de virus.
Pour la première fois, je crois que ça doit être pour la première fois, d'ailleurs, qu'on parle d'un virus informatique. D'ailleurs, ils disent pas que c'est un virus.
Ça, mais... ça me donne toujours l'air intelligent quand on lit les trivia sur IMDb.
Ouais.
J'ai lu, moi aussi.
Ouais, c'est ça.
C'était effectivement la première fois que c'était nommé...
On parlait vraiment
de virus. On a nommé le concept de virus dans un film.
Ouais, ouais.
Peut-être que...
C'était déjà le cas ailleurs, mais en tout cas, dans un film, ouais. Ouais, c'est la première fois que ça devenait comme un truc un peu... Ouais. Donc, c'est ça, mais il n'y a aucune... Il parle de virus, enfin de possible virus informatique, mais il n'y a pas de cause, il n'y a pas de...
Mais moi, c'est ça qui me plaît.
Il n'y a pas d'instigateur, il n'y a pas de... C'est un accident, c'est comme...
Ça me plaît, ce mystère-là.
C'est un bug du programme, finalement.
Moi, ça me plaît, ce mystère-là. Je n'ai pas besoin de le savoir.
Ah, mais je n'ai pas besoin d'une explication non plus, finalement. Mais juste pour dire... C'est ça, moi je trouve qu'il rentre vraiment dans le carcan du film culte. Dans le sens où, histoire très simple, personnage pas très approfondi, mais sympathique malgré tout.
Mais personnage culte avec le personnage du comment il l'appelle, de Yul
Brynner. Gunslinger.
Gunslinger. Qui aussi est un terme qui n'existait pas dans la réalité du western. Si tu lis les trivia, il t'explique que ça a été
inventé. Oui, c'est vrai, oui, ça je savais pas d'ailleurs. Je pensais que c'était un gunslinger, je pensais que ça existait déjà dans les westerns, mais non, c'est venu après.
C'est venu plus tard. Ça n'existait pas dans l'ouest américain non plus.
Non.
Mais.
C'est un terme du cinéma, de la littérature.
Donc le gunslinger, lui c'est vraiment un personnage. Qui frappe, là. Tu sais, il doit être dans les top 10 vilains ou 50 vilains d'histoire du cinéma, là. Il n'y a pas de motivation, mais tu sais, le pire, c'est que. Est-ce qu'il se venge parce qu'il s'est fait tuer deux fois déjà par ces deux crétins-là?
Ouais.
Est-ce qu'il est fâché, tu sais? Ou il a juste décidé que c'était eux, puis qu'il est pogné, tu sais. Puis aussi, ah oui, le truc intéressant, c'est l'espèce de regard en pixels, tu sais.
Ouais, ben ça aussi, dans le trivia, ils disent comme quoi c'était une des premières fois au cinéma où tu avais.
Un traitement informatique.
Un traitement informatique de l'image, tu sais, enfin, pour donner une impression de. Bon,
c'est pas fou l'impressionnant. On va revenir à Tron comme étant le précurseur.
Ouais, on est d'accord.
De l'image de synthèse informatique.
Ouais, mais là aussi, tu vois, par la suite, avec Terminator et des trucs comme ça, là, après, tu avais le regard, là, tout rouge, avec les petites. Tu sais, toutes les petites choses qui s'affichent, là.
Le petit truc. Mais c'est la.
Le code et tout
la vision subjective du robot, là,
ouais.
Qui est intéressante parce qu'effectivement, on l'a pas. Puis ce qui est le fun de découvrir, ce qui était bien, c'est que le robot, il voit vraiment pas les mondes comme nous, tu sais.
Ouais,
puis
ouais.
C'est ça qui est amusant parce que sur le coup, ça le déshumanise, puis ça l'enlève justement toutes ces intentions-là qu'on n'est pas sûr, tu sais, pourquoi il fait ça, etc., etc. Là, du coup, tu vois ça, puis t'es comme genre, ah, c'est une machine, tu sais. C'est comme un missile qui est lancé, là, puis qui va juste pogner sa cible, tu sais.
C'est impossible à arrêter.
Puis les humains sont un peu cons là-dedans. Hein?
Complètement, ouais.
Hein?
Complètement.
Ouais, ils sont vraiment cons. On n'a pas de sympathie pour eux tant que ça, finalement, tu sais.
Non, ils sont un peu...
Ils sont pervers,
Ils ont ce côté, j'arrive en terrain conquis, je peux faire ce que je veux.
Ouais, c'est vraiment
les clients riches qui arrivent, puis qui, tu sais...
Ils sont dominateurs, là. C'est des esclaves, les robots, là.
Exactement, voilà.
Il n'y a aucun respect pour le robot, ouais. Donc la révolution des robots, tu l'as...
Finalement, tu les comprends!
Mais presque, tu sais, presque, t'as pas de personnage attachant. Je sais pas comment ils vont faire la série TV, mais c'est un bon point, ça. Tu sais, je veux dire, je m'excuse.
Mais finalement, le personnage de Benjamin, de Rachel Benjamin, est quand même, vu que c'est le gars, c'est la première fois qu'il est là, il découvre
mais
tout ça.
C'est notre
il a quand même une espèce de, il a une espèce de jovialité qui est assez contagieuse, tu vois. Là,
il a zéro l'air d'un cowboy. Là. Il a pas le physique du rôle. Là. Il est maigrichon.
C'est assez drôle. C'est un cast assez intéressant. Ah, avec la grosse moustache, ça m'a fait hurler de rire. Je m'en rappelais pas. Mais
son ami, lui, c'est le douchebag un petit peu. Là,
ouais.
Il est comme...
Ouais,
pas douchebag tout à fait, mais vraiment macho.
Ouais, le macho, voilà, exactement. Ouais, ouais. Le gars a tout vu. Ouais, tu vas voir, allez, regarde.
Ouais, ouais.
Mais Benjamin, je le trouve intéressant parce que justement, il a cette espèce de d'émerveillement, tu sais, qui est finalement qui te parle, qui vient te chercher, parce que tu serais un peu comme lui, là, si t'arrivais là-dedans, puis tu vivais tout ça, et puis tu comprends petit à petit qu'il faut jouer le jeu, puis te laisser aller à jouer le cowboy. Mais bon, à part ça, ouais, ils sont complètement survolés, là.
C'est presque le défaut de la série télé, en fait. C'est que là, nous, on a des archétypes, des clichés, ça va, on s'attache. Mais dans la série télé,
elle cherche à développer beaucoup trop.
Non, la difficulté de la série. J'ai dit le défaut. Quand une bonne série télé te fait triper sur les personnages parce qu'ils ont ils te surprennent, ils savent travailler le personnage. Mais l'exemple parfait, c'est Breaking Bad. T'as-tu vu? Tu l'as pas vu encore?
Non.
Ah, mon Dieu!
Oui, à chaque fois, tu me bats.
Ça n'a pas de bon sens. Un jour, là, je t'avais de te kidnapper, OK, puis de te faire écouter la saison entière. T'sais, tu vas être attaché, là, puis avoir un gun sur ta tempe, là, comme un jouet, mettons. Les hair guns, là.
Les hair guns, ouais.
Ouais, ils ressemblent à des vrais, tu sauras pas. Puis, donc, tu vas avoir un faux gun sur la tête qui va avoir l'air vrai. Puis là, je vais te faire écouter toute la saison de Breaking Bad. Après ça, j'ai plus besoin de rien faire. Tu vas être hooked. Non, sérieux, ça n'a pas de bon sens. Ouais.
Non, mais c'est clair que dans toutes ces séries, dans toutes les bonnes séries, les personnages, ils prennent le temps d'évoluer.
C'est ça, tu sais, ça t'amène, puis tu sais, comme une autre série qui est intéressante, c'est True Detective, où est-ce que le personnage, au début, tu n'es pas sûr.
Que j'ai pas vu non plus.
T'as pas vu la première saison de True Detective?
Non.
Mais là,
pas
tu me niaises, c'est vraiment pas long écouter ça. Là.
Non, je sais.
Là, t'as manqué les deux plus belles séries de l'histoire. Sérieusement, là, c'est vraiment les meilleures. Là.
Ouais, mais j'ai du travail.
Non, t'as pas du travail, c'est comme tu commences tout détectif, là, puis t'es comme. Tu sais.
Ouais.
Non, sérieux, là, tu peux pas. Hey, ça n'a pas de bon sens. Faut vraiment que j'aille faire un rapt.
Prochain projet.
Non, mais au moins True Detective, c'est moins long. Je comprends, Breaking Bad, c'est 5 saisons. J'ai pas écouté la deuxième saison de True Detective, qui paraît-il moins bonne, mais qui est quand même bonne. Mais non, True Detective, c'est tellement beau. Puis c'est des personnages, justement, c'est un autre exemple. Bon, alors on a encore fait une discrétion sur deux séries dont on a sûrement déjà parlé, que Nick n'a pas vu et que c'est un crime. Je le maintiens.
Ah, je le sais.
Heureusement, il a fait écouter un peu Doctor Who. Mais bon, c'est meilleur. Hein? True Detective et Breaking Bad, là, Doctor Who, j'aime bien, là, mais...
Non, c'est un autre niveau, on est complètement d'accord. Ouais.
C'est comme Battlestar Galactica, c'est très bon. Ouais. C'est à ce niveau-là.
Ah oui, ça oui.
Avec un petit peu mieux encore. Je suis une grosse fan de Battlestar Galactica. J'adore cette série-là. Puis je pense que Breaking Bad plutôt Detective vont un petit peu plus loin. Parce que la psychologie des personnages est tellement intéressante. Là. Dans Breaking Bad, c'est le personnage qu'il évolue. Il y a une vraie évolution du personnage. Je ne vais pas te dire comment, mais tu commences avec un personnage, puis à la fin de la série, t'as un autre personnage. Là, ça dure peut-être 5-6 ans.
Ouais, c'est ça, il y a 5 ou 6 saisons. Hein.
Ouais, il y a 5 saisons, mais une saison qui a été divisée en 2 ans, tu sais. Mais donc, ouais, je pense qu'on couvre 5 ans là, dans Breaking Bad. Je pense pas me tromper quand je dis que c'est 5 ans. Ah, puis écoute, c'est jouissif cette série-là. Il y a des moments, là, tu penses connaître le personnage, puis tu t'es plus sûr à un moment donné. Là. C'est ça qu'il y a de bon. Puis c'est ça qu'il y a de dur dans une série télé. C'est dans une série télé, c'est que tu peux pas avoir justement un archétype. Les gens, ils se tanneraient, là. Westworld, là, tu pourrais pas avoir juste Westworld. Westworld, ça serait le premier épisode dans une série télé.
Ouais, c'est ça.
Puis non, mais ça serait même pas le premier épisode parce que ça serait trop en dire, trop vite sur des personnages qu'on veut découvrir, tu sais.
Ouais.
Donc, tu vois un petit peu ce que je veux dire, tu sais.
Tu veux dire l'histoire de la machine qui merde?
Non, mais je pense plus aux archétypes des personnages. Le gars qui est comme que sa femme l'a quitté, qui s'emmerde. Tu sais, on resterait plus en... Là, on le sait toute sa vie, là. On sait c'est qui, là. On sait que le gars, il travaille dans une petite job ordinaire et tout, puis que là, sa femme, elle l'aimait pas parce qu'il était trop mec, puis qu'il était pas un vrai tough, tu sais. Puis qu'elle l'a quitté, on sait pas pour qui, là. Peut-être pour... le gars qui nettoyait la piscine, tu sais, puis peut-être qu'elle s'ennuyait. Puis là, il est triste, puis il s'en est pas remis. Mais en même temps, il est pas si triste que ça, parce que peut-être que lui aussi, il était pas content. Puis là, il fantase d'être un cow-boy. Puis là, son ami, qui est comme l'espèce... qui est paradoxalement son ami, parce qu'il aime l'idée d'être ami avec un espèce de gros macho et tout, bien, il l'amène, puis il va la jouer gros macho et tout. Puis évidemment, bien... ça sera pas ça, tu sais, puis il va se rendre compte que c'était pas une bonne chose d'être un gros macho épais parce qu'il va se faire essayer de se faire tuer par un robot, mais il va s'en sortir, donc il va transcender, puis il va devenir un vrai héros. Voilà, c'est Westworld, tu sais, puis ça, on le sait tout, dans, en dedans de 2 heures, tu sais. Dans une série TV, tu veux que cette histoire-là dure.
Ouais, tu l'étires.
Ouais. Tu l'étires, tu sais. Puis il faut, que le personnage soit plus complexe, tu sais. Là, il n'est pas complexe. Ils ne sont pas complexes, ces personnages-là, vraiment zéro.
Non, non, mais ils vont sortir de là. Ils vont certainement se servir du monde, de l'univers de Westworld. Puis à l'intérieur de ça, ils vont créer plus... Je suppose qu'ils vont créer plusieurs histoires. Tu vas suivre plusieurs personnages qui vivent à chacun leur arc.
Oui.
Il y aura peut-être un grand arc, voilà, ça va aller vers peut-être le problème de la machine.
Je serais curieuse de voir cette série.
Ouais, moi aussi. En tout cas, le teaser qu'on a vu là m'a fait envie là. J'étais comme ouh.
Le monde, un truc que j'aimerais dire, c'est que c'était le premier film de Christian, comme on a dit, puis il roulait pas sur un gros budget. Hein.
Non, ça a coûté 1 million. Et bon, bah pour l'époque, évidemment, c'était quelque chose. Mais je pense que c'était pas... c'était 1 250 000, une estimation de budget. Et puis, une recette de 10 millions, rien qu'aux US.
Donc, un gros succès pour l'époque.
C'est quand même un bon succès, là, pour un premier film. C'est un film qui a marqué, je pense, pas mal à l'époque.
Puis, c'était intéressant aussi. Un truc que je trouvais intéressant, c'était de voir les obsessions de l'époque. Parce que aujourd'hui, est-ce qu'on ferait vraiment un monde western, un monde médiéval, puis un monde romain? Tu sais, c'était l'époque des peplums romains.
Ouais.
C'est l'époque des westerns. Puis là, je sais pas, pour le médiéval, il me semble, c'était populaire aussi, là. Mais tu sais, t'avais les Robin Hood, t'avais le...
Ouais, il y a une tradition dans le cinéma hollywoodien de films de KPDP. Tu sais, il y a eu ça à une époque. Donc oui, c'était un peu les trois grandes...
Mais c'était les fameux peplums, les films à grand déploiement, ouais, les films... Puis
il y aurait pu y avoir le monde de la prohibition, tu sais, genre...
Ouais, les gangsters.
Gangsters, tu sais, il y aurait pu y avoir ça.
Il y aurait pu y avoir ça, effectivement. Ça serait... Mais c'était vraiment... aujourd'hui, il me semble que ça serait plus un monde de super-héros.
Ouais, ou un
genre la Gotham, t'aurais Gotham City.
Ou un truc militaire, peut-être, aussi. Parce qu'il y a tellement de gens qui fantasment sur l'armée, le militaire, le truc. Ouais. Je me dis qu'il pourrait y avoir un truc extrême.
Il me semble que t'aurais peut-être plus un truc aussi, c'est le détective, là. Trouver le tueur.
Ouais.
C'est super populaire, là, les séries de détectives, là, les CSI.
Il y aurait un monde manga.
Ouais, mais manga, c'est tout ça, hein, c'est des mélanges, là. Ouais, en tout cas, ça, j'avais trouvé ça charmant de voir un peu les obsessions de l'époque là-dedans.
C'est vrai, qu'est-ce que ça serait notre époque? Ça va être intéressant de voir comment ils adaptent ça. D'après ce qu'on a vu, le monde western reste toujours présent. Bah, c'est une grosse partie du concept, tu sais.
Ben oui,
Westworld. Et dans le titre, ça reste dans le titre. Tu peux pas l'éviter, mais je suis curieux de voir comment ils vont...
Il n'y a plus personne qui s'intéresse au monde romain aujourd'hui. Il y a Rome qui a été fait.
Je sais pas, ouais, parce qu'il y a eu quand même un regard d'intérêt.
Mais il y a eu une série Rome, mais non, mais elle a été cancellée.
Il y a eu Spartacus, il y a eu... tu sais, t'as eu le film 300, il y a quand même...
Non, non, mais Spartacus, de quoi tu parles, ça n'a pas pogné du tout, là. Mais est-ce que ça l'a pogné?
Je crois, ouais.
Rome, ils l'ont cancellé, il était supposé 2 saisons.
Il y a eu les Borgia, les Borgia, non, aussi.
Les Borgia, c'est pas romain, là.
Oh, excuse-moi, oui, non, excuse-moi.
Moi, je te parle de l'époque romaine. Ouais. Moi, je trouve que l'époque romaine, écoute...
Ah, c'est tout ce qu'il y a eu, c'est vrai.
C'est pas les années 60.
Mais regarde, avec les Game of Thrones et tout ça, il y aura peut-être un truc genre...
Fantasy, il y aurait un Fantasy World. Un fantasy World. C'est ça qui nous a fait...
Médiéval fantasy, là, ben ouais, un truc à la World of Warcraft ou whatever.
Ouais.
Un truc jeu vidéo. Là.
World of Warcraft, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, le fameux qui mélange tout, là. Tu sais, genre...
Tu vois, on y revient au médiéval. Mais ouais, fantasy.
Mais fantasy, c'est médiéval, c'est différent. C'est pas pareil. Mm. Je veux dire, le fantasy, c'est inspiré du médiéval, mais c'est un peu comme je disais tantôt, les fameux western spaghetti qui se sont inspirés des westerns, tu sais, puis qui étaient des westerns, mais qui n'étaient pas des westerns, tu sais.
En tout cas, revu le film avec pas mal de plaisir.
Ouais, moi, ça n'a pas été dur de le voir.
Même si, il y a un petit côté, il y a un petit quelque chose qui a mal vieilli, il y a ce côté un peu cheesy et tout, c'est fun malgré tout. T'as envie de te replonger dedans.
Je trouve pas que ça a si mal vieilli que ça. Je comprends ce que tu veux dire par mal vieilli, mais il y a des trucs qui ont beaucoup plus mal vieilli que ça, selon moi. Là. Ouais.
C'est Carpenter qui a dit aussi que ça l'a inspiré, tu sais, le tueur qui s'arrête jamais, ça l'a inspiré pour Michael Myers, pour Halloween.
Ben oui.
Ça me revient là tout à coup.
Ben oui, c'est vrai, j'avais trouvé ça intéressant quand j'avais vu ça.
Non, ça a clairement inspiré plein de trucs.
C'est ce qui fait un film culte, c'est ça aussi, je pense. Ouais. Un film culte, c'est un film qui marque des créateurs, tu sais. Puis là, tu viens de nommer Terminator, puis Halloween. Ben oui, non, mais là, tu viens de parler de 2 grands films cultes.
Ouais.
Là.
Ouais.
Terminator, Halloween ont été inspirés par ce film-là. Donc, c'est important, tu sais.
Clair.
Puis c'est ça qui a marqué l'imaginaire qu'on a de Yul Brynner comme acteur, c'est ça. Là. Il a fait d'autres films, là, je disais, sur sa carrière et tout. Là. Anna et le roi.
Ouais, bon, ça, c'est un des plus connus parce que, parce qu'aussi, il a joué cette pièce pendant 40 ans, tu sais, un truc comme ça, un truc de fou, là.
Mais c'est pas intéressant, je pense, ce truc-là. Aujourd'hui, on l'oublie parce qu'on oublie Westworld.
Mais moi, c'était les sept mercenaires et ça.
Ouais.
C'était ça, Yul Brynner, tu sais.
Moi, c'est comme ça que je me souviens. J'ai réalisé que c'était lui qui faisait le pharaon dans...
Ben oui! Oui!
On n'en peut pas avoir oublié ça. Le nom... Là, on a toutes les deux un blanc pour un des films les plus connus de l'histoire. Voyons, avec Moïse, les sept... Dix commandements?
Les dix commandements.
Mon Dieu! Ça y est, je suis excommuniée. J'ai pas besoin d'aller le faire directement. Les dix commandements. Les fameux dix commandements, ce grand classique. Parlant de peplum, je pense que c'est pour ça que les gens ils aimaient l'histoire romaine, ils étaient croyants. Parce que les peplums, là, c'était Ben-Hur. Ben-Hur, c'est un truc de chrétien. Jésus, Nazareth, tous les films sur Jésus de l'époque. Spartacus, qui a eu le premier, là, celui-là de Kubrick.
Non, puis Cléopâtre, et puis tous ces grands films.
Cléopâtre, il y en a eu, des grands
peplums. Il y avait cette tradition là-dedans. De grands films.
Ils s'en sortaient un par année, là, d'immenses. Là. Aujourd'hui, on fait des gros films à gros budget, puis c'est de l'action, c'est des chars qui tournent dans tous les sens, puis qui coûtent une fortune.
Il était dans The Return of the Magnificent Seven. J'ai jamais vu ça, la suite. Mais non, un paquet de films quand même. Là, je suis devant sa filmographie, là, Yul Brynner. Non, un paquet de films.
Ouais, je
Et
sais, mais...
Westworld, c'était vers la fin.
Non,
ça s'arrête en 76. Future World, c'est l'avant-dernier. Westworld, c'est le quatrième avant la fin.
Ah, il est mort jeune, lui. Il est mort du cancer.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est drôle parce que je l'ai regardé sa biographie puis j'avais pas flashé.
Mais bon, il a commencé en 44, quoi. Premier film en 44.
T'as raison.
Télé, c'est série télé, excuse-moi.
C'est parce qu'il est mort en 76, donc... c'est drôle. Puis, tu sais, il est mort.
Arrêté brutalement, mais.
Il est mort comme probablement avant que je voie un des films qu'il avait fait, parce qu'en 71, j'avais 3 ans, j'avais pas vu aucun film.
Ah, je pense que j'avais déjà vu de quoi. Encore un bon qui s'est arrêté trop jeune.
Il faudrait un jour que je me tape une.
Non, en 85, il est mort. Ouais, je me rappelle la série Anna et le Roi, là, je me rappelle tellement, ça aussi.
C'était une série télé?
Ouais, il y avait une série télé, j'adorais ça.
Mais je me demande s'il n'y avait pas...
Je l'ai vu plus tard, là. Ça a été diffusé chez nous pas mal plus tard qu'aux États-Unis. Mais...
J'ai pensé que Westworld avait peut-être aussi un petit peu une influence de Duel qui a été effectivement faite quelques années avant le char qui court après le gars là, de Spielberg.
C'est vrai, ça. Pour aucune raison, tu sais jamais pourquoi, mais c'est super angoissant. Ouais, effectivement.
Ouais, un petit truc de Duel. Puis c'est la même époque, tu sais. C'est ça, je te dis, c'est vraiment un film de son
Duel, temps. C'était quand?
71. Oui, mais peut-être c'est un truc d'époque. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une petite obsession. Ouais, le méchant... Halloween fait partie de cette... le méchant, sans motivation, en fait. C'est ça qui est le fun, tu sais.
Ouais,
c'est les meilleurs méchants. Les méchants qu'on essaie d'expliquer, sérieusement. Les méchants... Pense à tous les meilleurs méchants, là. Tu sais? Les méchants qu'on se rappelle puis qui nous font le plus freaky, c'est ceux qui n'ont pas de motivation, là. C'est quoi les méchants préférés? Ben, c'est vrai que dans Psycho, il l'explique à la fin.
Ouais. Non, il y a une motivation quand même.
Mais c'est pas le bout intéressant.
Ouais. Je veux dire, les méchants iconiques, quand même, il y en a pas mal. C'est des Hans Gruber, des Darth Vader, des.
Oui, mais Darth Vader, c'est quoi sa motivation?
Je veux dire, celui qui n'a aucune motivation, c'est Alien.
Dans Halloween.
Halloween, ouais, c'est ça.
C'est juste un méchant pour être méchant, il va tuer sa sœur parce que.
Ben, c'est un tueur en série, là. Il y en a certainement une de motivation quelque part, mais tu le sais pas. Ils ont essayé de l'expliquer dans le remake.
Il est fascinant, ce tueur en série-là. Moi, j'ai pas écouté les remakes et compagnie, mais je trouve juste ça...
Je l'ai pas vu non plus, mais je sais qu'il y a comme une espèce de backstory au début, tu sais, qui essaie comme d'expliquer le trauma, tu sais.
Mm-hmm.
Pourquoi il est devenu le Mike Myers, tu sais, Michael Myers qu'on connaît.
Mm-hmm.
Non, je pense quand même que il y a plein de bons méchants qui ont des motivations derrière, tu sais, des motivations intéressantes. Tu sais.
Ouais.
Après, c'est une histoire de.
Mais c'est juste que son.
D'interprétation.
Je trouve qu'ils sont plus intéressants quand.
De présence, de charisme, il y a tout ça aussi.
Mais ça, j'en reviens peut-être à l'archétype, en fait, tu sais.
Ouais.
Parce que oui, quand tu regardes des séries télé, là, comme là, je viens d'écouter Narcos sur Pablo Escobar, on s'entend-tu que s'il y a un méchant, Pablo Escobar, c'est un méchant. Puis, dans la série, tu sais, il y a quelqu'un qui écrivait, c'est que genre. Réussit à nous rendre attachants tout en étant inexcusable à Pablo Escobar. T'sais, tu peux pas, il y a pas un moment dans la série que tu écoutes la série puis tu es comme genre je le comprends pas, tu Pablo Escobar, à ta place j'aurais fait pareil. Tu es comme Non, c'est horrible ce que tu fais. T'sais, c'est comme un monstre, mais tu sens ses motivations. Mais là, c'est ça, parce que à travers toute la série, il parle du début de sa carrière de narcotrafiquant. Puis tu vois un petit peu son évolution. Puis, tu sais, genre, à un moment donné, ça n'a juste pas de bon sens ce qui se passe. Puis comment le gars, il était déconnecté de l'humanité, tu sais. Mais dans Westworld, c'est juste, il va aller le tuer. C'est tout, tu sais. Puis c'est le méchant. Accepte ça, ma fille.
Ouais.
Tu sais, puis t'as pas besoin de plus que ça. Puis c'est fréquent pareil, tu sais.
Ouais.
Parce que c'est fréquent, là. C'est fréquent l'idée de te faire courir après. En fait... Le méchant
ouais, par un truc que tu peux dont tu peux pas te débarrasser a priori quoi.
Ouais. Ben le méchant qui c'est ça, tu y as rien fait là.
Ouais.
C'est la bête sauvage. Ouais.
C'est vraiment ça.
C'est le terroriste, c'est comme si tu
poursuivi par un ours,
c'est le monstre.
Poursuivi par un t'es sans défense puis tu es poursuivi par un animal dangereux qui veut juste te bouffer, tu sais pas pourquoi.
T'es dans le bois là, puis c'est genre arrive un ours puis il est comme
ouais.
Qu'est-ce que tu fais? T'es comme, oh shit, t'sais, c'est horrible. Là. Tu vas-tu dire à l'ours, mais non, tu m'as pas, whatever. Là. C'est comme la peur de toutes les filles quand elles marchent dans un parc, puis que, comme genre, elles voient poindre un couteau dans le truc. Mais bon, évidemment, comme tu sais, d'après notre expérience de cinéma, qu'est-ce que tu faisais, fille, dans un parc, à me passer une soir? You shouldn't go there. C'est clair que tu vas avoir un couteau sur le lampadaire apparaître, tu sais. Bref, tu sais, pour dire que... Ouais, c'est ça, le méchant, ce qui est comme... C'est comme quand on parle des terroristes, tu sais, on aime pas les comprendre. Ce qu'on aime dire, c'est comme c'est incompréhensible. On comprend pas comment quatre garçons de bonne famille qui avaient étudié en Occident, blablabla, vont se faire sauter dans un avion puis tuer 1000 personnes, tu sais. C'est cette partie-là qui est excitante dans... puis qui fait en sorte que ça leur donne du pouvoir parce qu'ils deviennent comme plus forts, mystérieux. C'est ce qu'on comprend est moins menaçant, tu sais, a moins de pouvoir, tu sais. Bref, c'était ma lancée sur le méchant.
Non, en même temps, j'étais en train de penser. Non, mais ouais, non, mais c'est intéressant. Mais en même temps, je me pensais à. On est à une époque aussi où paradoxalement, on aime en savoir plus sur les personnages. Tu sais, on aime. Je sais pas. Je prends Game of Thrones par exemple, ou parce qu'on est dedans, parce que ça vient de recommencer, mais où t'as plein de personnages. A priori méchante, c'est genre la famille méchante, c'est qui tue tout le monde. Mais tu découvres à mesure de que tu avances dans la série, spoiler pour Game of Thrones, pour les trois personnes qui connaissent pas, tu découvres toutes les facettes de ces personnages, c'est pas juste des méchants, il y a des humains derrière. Oui, il y en a certains qui sont juste fondamentalement méchants et puis ça s'arrête là. Mais il y a plusieurs de ces personnages. Je pense à la famille Lannister, par exemple.
Moi, je savais que tu pensais à cette famille-là.
Ouais. Ouais, c'est clairement...
C'est eux les méchants.
Mais je veux dire, tu découvres tout... Enfin, à travers tout ce qui se passe, tu fais connaissance avec ces personnages. Tu découvres petit à petit leur backstory ou en tout cas certaines choses par rapport à eux. Tu découvres qu'ils peuvent aussi être humains, tu sais.
Mais en fait...
Éprouver des choses. Et puis, ils sont finalement... ils ont fait certaines actions, mais pour certaines raisons.
Mais c'est le débat, en fait, entre le bien et le mal.
Ouais.
Est-ce que le mal absolu existe? Parce que si tu regardes l'histoire de Pablo Escobar, oui, même si tu peux comprendre que dans sa delusion, dans son imaginaire à lui, dans son histoire à lui, il est correct. Puis ces petits moments touchants où est-ce qu'il aime sa femme et ses enfants, puis t'es comme, dude, tu viens d'envoyer tes gars tuer... une maman, là, tu sais, genre, là, il allait assassiner son enfant, là, tu sais. Mmh. Ça passait à deux doigts qu'il fasse ça dans le truc, puis c'était comme... Bon, ils l'ont pas fait parce que c'est Netflix, puis qu'il y a quand même des limites à ce qu'ils peuvent faire, là, tu sais. Mmh. Mais, tu sais, il y a pas de... Il est méchant. Puis après ça, t'arrives dans des séries comme Game of Thrones qui sont intéressantes, parce que l'auteur est un sadique. Moi, je pense que c'est l'auteur qui est méchant. Si tu veux trouver le psychopathe... Puis le vrai méchant, c'est l'auteur de Game of Thrones qui parle.
Ouais, c'est vrai.
Non, sérieux.
Tout le monde le déteste.
Non, mais attends, je veux dire.
C'est lui qui tue les personnages.
Puis en même temps, tu sais, les bons dans Game of Thrones, les Stark, sont insupportables. Là. Moi, je veux dire, là, j'ai tellement ri quand
ils meurent. Bon, là, de toute façon, de nouveau, spoiler, il en reste plus beaucoup des Stark.
Oui, mais c'est ça, dans la saison 1, quand le tu sais, moi, j'étais comme, ah, il me tombait ses nerfs, je suis contente, parce qu'il me tombait ses nerfs, parce que c'est comme, dude, épais, ben, c'est le gars de la fille, il va pas dans le parc passer minuit, là, c'est comme genre, dude, sois pas vertueux, là, tout le monde te le dit que tu vas te faire tuer.
Ouais, la noblesse, trop de noblesse dans ce monde de pourri, ouais.
Ouais, ça, ben, c'est le Marquis de Sade qui écrit les infortunes de Justine, parce que dans Justine, Justine. Oh, tu vas être obligé de mettre dans tes discrétions le Justine du Marquis de Sade. J'aime ça. Non, mais c'est parce que dans cette histoire-là, tu sais, c'est Justine qui est comme genre, t'as sa sœur, puis elle qui tombe orpheline. Puis sa sœur, elle dit, hey, viens-t'en, on va se trouver un petit copain qui va être riche, on est jolie, on est jeune, on va se faire entretenir. Puis là, t'as Justine qui dit, non, 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 je suis vertueuse et tout. Puis évidemment, elle passe de malchance en malchance parce qu'elle est dans cette espèce d'univers de la vertu puis d'être plus propre puis plus pure. C'est Robespierre aussi qui était vertueux et tout puis qui a tué plein de monde parce que Danton était corrompu, tu sais, mais il était aimé. Tu sais, je veux dire, on est toujours dans cette idée-là des gens vertueux comme étant meilleurs. Mm-hmm. Puis ce que nous dit... Mais dans le fond, on les aime pas, tu sais. Nous, on a envie de quelqu'un qui fasse des choses dégueulasses un petit peu parce qu'on se sent toujours un petit peu dégueulasse. Donc, les gens trop parfaits et tout, les mères Teresa de ce monde, soit que c'est des saints,
soit que
c'est des monstres aussi, tu sais. Puis je pense que c'est un petit peu ça laquelle il joue. C'est quoi l'auteur de Game of Thrones? J'oublie son nom.
George R. R. Martin.
Ah, George R. R. Martin, il joue là-dessus. Puis oui, lui, il est sadique. Il prend un fun noir à tuer ses personnages.
Sauf que là, dans la nouvelle saison, on n'est plus dans le livre.
Ouais, c'est bizarre.
C'est bizarre. On va voir ce que ça va donner. On va voir.
Je trouve ça bizarre parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de talent dans ces livres-là.
En même temps qu'on parlait de ça, je repensais Westworld, c'est le robot qui te poursuit, qui ne s'arrête jamais. Et puis j'ai repensé à un autre film, d'ailleurs plusieurs films de John Carpenter. Finalement, ce concept-là, c'est du méchant qui ne s'arrête jamais, il l'a exploité, il l'a pas mal exploité. Il y a aussi, je crois que c'est son premier long-métrage d'ailleurs, Assault on Precinct 13. Je ne sais pas si tu as vu ça. Assault on Precinct 13.
Non.
Je ne connais pas le titre français.
Assault dans la prison 13.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est... Mais je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français. Il me semble qu'il y a un autre nom.
C'est sûr que les Français ont transformé ça Jailbreak 13 Prison. Escape.
Ouais, un autre titre anglais qui ne veut rien dire.
T'as fait Bing Bang. Bang in Prison.
Oui, on aime bien se moquer des traductions de nos amis français. Mais des traductions anglaises de titres anglais de nos amis français. Mais. Non, qui est un film qui raconte où, en fait, où tu as toute une gang de policiers et de criminels qui sont à l'intérieur d'une station de police qui est sur le point de se faire d'être laissée à l'abandon, se font attaquer par un gang de rue, mais ils se font attaquer comme il y a par vagues, tu sais, des vagues de gangs de rue qui rentrent par les fenêtres, que si que ça, je veux dire, ça
c'est
n'arrête
drôle.
Pas de et qui s'arrêtent, t'as l'impression qu'ils s'arrêtent jamais, tu sais. Et tout ça pour une histoire de vengeance parce que quelqu'un qui se trouve dans la prison a tué genre quelques-uns de ce gang de rue. Et là aussi, t'as l'impression que c'est le méchant qui s'arrête jamais d'arriver, tu sais.
Ah ouais, ça
t'as
c'est ça, intéressant.
T'as Christine avec la voiture qui, bon, là, sa raison c'est que c'est Chris, spoiler pour le
elle
film et le roman, Christine, elle est jalouse. et puis donc elle s'attaque à toute personne, mais tu sais, elle l'arrête jamais non plus. Enfin, il y a toujours ces trucs là.
Ouais, mais c'est ça que j'aime, c'est le méchant qui comme il est comme cute, il est déterminé là, tu sais, genre pourquoi.
Ouais, déterminé, c'est le mot. Ouais.
J'ai genre. Cowboy dans Westworld, pourquoi tu cours après lui? T'sais, pourquoi lui en particulier? Tu pourrais juste la couler douce. Enfin, t'es libéré d'être obligé d'être l'esclave des êtres humains. T'sais. Mais non, il veut vraiment se manger. Il a comme son but. Il a comme,
C'est son programme qui a comme... lui, c'était... Bah oui, parce que lui, son programme, c'est d'être le gunslinger que tu vas chercher en duel. T'sais.
Ouais.
Et finalement, il y a une espèce de bug qui fait qu'il est comme constamment en train de répéter le même truc. Tu sais.
Mais,
lui, c'est la provocation. C'est la provocation en duel au point que, en fait, c'est même plus de la provocation, c'est carrément de la chasse. Puis donc, ouais, le Assault on Precinct 13, c'était en 76, donc 3 ans plus tard. Donc, toi, c'est tout dans cette époque-là. Comme tu disais, c'est dans cette époque des années 70, puis tout ce genre de films et tout.
Mais aujourd'hui, ça serait quoi des films avec des méchants de même? Justement, je pense qu'on est à une autre époque. Je veux dire, des méchants purs, là, sans motivation. Tu sais, genre, les méchants, ils sont tous comme Hannibal, là. Tu sais, genre... Ils sont comme sophistiqués, intelligents, ils ont une histoire. dans Game of Thrones, tu le dis, ils sont sophisqués, ils ont une histoire. C'est peut-être ce que qui me plaît avec Narcos.
Dans Game of Thrones, finalement, c'est très gris. Il n'y a pas de blanc et noir. Il n'y a pas tout le monde qui est gentil, tout le monde qui est méchant.
Ouais, ben, moi, je pense que c'est plus bipolaire que ça. Là. C'est comme blanc puis noir, comme ça. Poum, 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 poum. C'est comme, puis tu sais jamais qui va virer blanc puis qui est noir. C'est comme Jaime Lannister, au début, tu dis c'est un méchant, là.
Ben, qui balance l'autre par la fenêtre.
C'est clair.
Par la fenêtre, là, c'est le salaud, tu sais.
Et puis
arrivé à la fin de la, c'est quoi, dans la troisième saison, je sais plus, où il y a toute cette histoire avec Brienne.
Ouais, c'est ça, tu l'aimes bien.
C'est génial, ça.
Mais t'es comme genre, ah ouais, t'es mon ami, toi, je te...
Tu commences à les aimer tellement, les deux, là, tu sais.
C'est ça, exactement, tu sais.
C'est ça, c'est comme, c'est, tout est gris, il y a comme une espèce de, tout est dans une zone grise, là, il n'y a pas de, personne n'est blanc.
Mais sa sœur, là, qui est comme pas, qui est plutôt noire, mais
ouais,
même...
elle est pas mal méchante, mais même, tu sais, parfois, il y a des moments où elle te touche parce que tu sens qu'elle vit un drame par rapport à son père et tout, enfin, il y a tout un truc...
Oui, mais c'est parce que surtout, c'est qu'elle ne veut pas voir la réalité en face, et puis ça, on est tous de même, je pense que c'est l'art de...
George R. R. Martin.
Martin. D'aller nous chercher dans cette espèce de zone-là. C'est comme des gros défauts qu'on a tous, tu sais. Mais je cherche vraiment cette espèce de méchant-là pur, une brute, là. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, là. T'as peu dans Batman, le Joker, il était sophistiqué, là, tu sais.
Ouais.
J'ai réécouté il n'y a pas longtemps Batman. Là, je suis en train d'écouter... Narcos, c'est pas pire pour ça. Il y avait comme pas le choix, c'est ça qui est drôle, tu sais. Parce que Pablo Escobar, là, tu vas trouver ça intéressant, c'est comme... C'est fou, là, ce qu'il fait, là. Tu sais, c'est comme... Il avait les moyens d'une armée, là, puis il a comme... Il était en guerre contre son pays, là, par narcissisme total, là, tu sais. C'est un vrai psychopathe, là.
Mais je pense pas que c'est dans la série télé.
Je réécoutais Judge Dredd, puis la fille, elle, c'est une vraie méchante. Ça, c'est le fun.
Ben, qui est la même actrice que...
Elle n'a pas changé beaucoup son créneau, elle. Ouais.
Mais c'est elle qui a été Sarah Connor aussi dans... On parlait de Terminator, mais elle a été Sarah Connor dans la courte série télé. Ouais.
Ah.
Qui a duré quoi, 2 saisons?
J'aime bien cette actrice-là.
Moi aussi, beaucoup. Et elle était bien, d'ailleurs, dans ce rôle-là.
Ben, je sais, on va se coucher ce soir, puis on va avoir plein d'exemples.
Ouais, mais je pense que c'est pas tellement dans la série télé.
Même les Cylons dans Battlestar Galactica étaient pas méchants, vraiment.
Tu sais, c'est comme s'ils cherchent...
T'avais-tu vu le film Screamer?
Leur humanité. Screamers? Ouais. J'ai vu ça, oui.
Mais ça, c'est des vrais méchants, là.
Ouais.
C'est des machines méchantes. Ouais. Mais ça n'a pas pogné, ce film-là, là. C'était comme trop tard pour avoir une vraie machine méchante.
Ouais, je pense que c'est devenu un peu film culte, quelque part.
Vraiment?
C'est pas devenu un peu niche, un peu...
Ben moi, c'est un film que j'aimais parce qu'il m'a fait freaker.
Il était cool, ce film.
Moi, j'ai trouvé ça freakant, mais je pense pas que c'est un bon film, tu sais. Ah oui, ben tiens, je viens de tomber sur des... Ça, c'est des vrais méchants, là.
Ça, ouais, avec le méchant Jigsaw. Ouais,
c'est un
vrai méchant. Ben, c'est un fou.
Mais dans Hit, le clown, c'est un vrai méchant aussi, on est d'accord.
C'est vrai. Ouais.
Il n'y a pas grand-chose, là. C'est le démon, là. Hum.
Le gros méchant classique, le démon.
Ouais, c'est le démon, c'est vrai. Mais moi, j'aime ça, les vrais méchants absolus, parce que je crois que c'est vrai. Je crois qu'il y a du mal absolu. Puis je crois que ça m'énerve de voir les gens être tous...
Non,
c'est
mais
toujours
les gens sont pas complètement méchants.
Ouais, c'est ça, m'énerve, parce que des fois, c'est genre comme... Ouais, Hitler, il était pas méchant, il aurait fallu le comprendre, il était juste frustré de pas avoir été acceptant en peinture et tout. Et moi, j'étais refusée à plein d'affaires que je voulais faire. Là. Je me suis mis à vouloir assassiner, génocider une culture, une race, entière, là, parce que j'étais pas contente d'avoir été refusée dans ma chaîne, là. Mais non, tu sais, je veux dire... Non, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui croit qu'il y a comme des gens qui sont mauvais. Est-ce qu'on peut expliquer les raisons pour lesquelles ils sont mauvaises, peut-être? T'sais? Je veux dire, un enfant, c'est toujours cute. Mais c'est un truc que j'avais trouvé intéressant avec « There's something about Kevin ».«
We need to talk about Kevin ».«
We need to talk about Kevin ».« We need to talk about Kevin ». Parce que c'est le gros dilemme de l'enfant mauvais. Puis de la mère, puis de leur rapport et tout. Ça, c'était bon, là. Ça, c'était tough, là, ce film-là. Ça, c'est un film intéressant. Anyway, sur le méchant. Hey, on a beaucoup parlé du méchant, excuse-moi, là. Ça me
fascine. Ouais, on a fait un peu l'histoire du méchant à travers les âges et la télé.
Grâce à Westworld. Mais ça va être probablement le film où est-ce qu'on va avoir le meilleur méchant, parce qu'en science-fiction, Alien, je pense pas qu'on peut dire qu'une bibitte, ça a la même portée. Mais un robot, tu vas me dire, c'est la même chose. Mais ça serait...
Ben si, la bibitte, je veux dire, on faisait l'allusion à l'animal qui te poursuit.
Ouais, je sais, mais c'est moins un personnage bibitte, que dans là... Westworld, non? Tu trouves pas? Oui, ça le lit. Je viens de dire une
parce
grosse
que c'est, parce que, je veux dire, la bête d'Alien, elle tue sans raison et c'est tout ce qu'elle cherche. Tu sais, genre, t'as pas de... C'est ça qui te fait freaker. On le disait avant, là, c'est ça qui te fait freaker.
Oui, je sais. Alien, mais Alien, on en a déjà parlé. Hein? Ouais. Puis je pense que dans Alien, c'est une bibitte qui est comme film d'horreur, on la voit pas beaucoup, là, tu sais. Mm-hmm. Mais dans Halloween, on le voit quand même beaucoup, le Myers. Ça fait partie du fun.
Peu, mais sa présence est suggérée. Enfin, je veux dire, il y a un moment, au bout d'un moment, t'as l'impression qu'il est constamment là, mais ouais. Tu le vois extrêmement peu, ouais. Ouais. C'est ça, toute l'intelligence de la mise en scène et tout ça.
Ouais, dans Alien, tout passe autour de cette bébête-là aussi, tu sais.
Ouais.
Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on n'a pas grand-chose d'autre à dire sur Westworld.
Bien, ouais, c'est bien. On a fait toute l'histoire des méchants, là, c'est bien.
on la refera plus.
Non. Bon, Marie-Louise, d'ici la prochaine fois, si on veut te retrouver, je le dis à chaque fois, tu vas me dire « Oui, mais je suis trop... Je suis jamais là » ou « Je suis trop occupée » ou « Je... » c'est sur Twitter et sur Facebook.
Ah oui, si vous m'écrivez sur Twitter. Je fais plus de Twitter que j'en faisais l'année dernière. Donc, des chances de me prendre sur Marie-Lou Gariepi. Sinon, Facebook. Puis je vais souvent voir le site de 24 Quarks. Donc, les commentaires, les messages, j'aime bien.
Ouais, c'est cool. Moi, je suis sur Twitter, Stedinic, et puis Facebook aussi bien que moins, mais c'est ça. Et puis pour le podcast, bien sûr, c'est sur le site 24quarks.com ou sur iTunes. Encore une fois, laissez-nous des petits commentaires et des ratings, c'est toujours très apprécié. Et puis Twitter, @24quarks, et puis la page Facebook, bien sûr, et pour nous écrire, 24quarks@gmail.com. Est-ce qu'on a déjà une idée? Bon, toi, tu vas être absente pendant deux
ouais,
mois.
Oui, c'est ça, je me disais, peut-être qu'on pourrait en faire un par Skype, tu sais.
Ouais.
Peut-être. On pourrait peut-être essayer là-dessus, là, comme à distance. Mm-hmm.
Donc, toi, tu es loin pendant deux mois, mais peut-être qu'on va se faire un épisode entre-temps.
Ben, ça...
Enfin, au milieu de cette période-là.
Oui, ça pourrait être possible. Peut-être juste avant que je commence le tournage, justement, ça pourrait être bien, dans un mois.
Bon, eh bien, ça s'arrête là et on finit sans bonne annonce. Mais comme d'habitude, on vous remercie de votre fidélité et on se retrouve très très bientôt. Bye. Program complete. Get away from her, you bitch. Shall we play a game? 24 secondes.